Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais évoquer aujourd'hui la période où nous y poussons un petit peu, les présidents de la République qui sont succédés au sommet de la France. Alors, si on commence par la Première République, l'an 1 de la République, je vous rappelle, c'était en 1792, ben, il n'y a pas eu de président. D'abord, la Première République, les historiens ne sont pas trop d'accord. À quel moment c'était fini, sous le directoire, sous le consulat. Enfin bon, passons sur la Première République et son absence de président. Et nous allons évoquer la Deuxième République. Oh, elle n'a pas duré longtemps, elle a duré du 20 décembre 1848. Au 2 décembre 1852. Et l'unique président de cette Deuxième République a été le prince Louis-Napoléon Bonaparte. C'est en 1848, donc après le départ du roi Louis-Philippe, que le prince Louis-Napoléon Bonaparte prête serment devant l'Assemblée nationale. Et puis, il dissout l'Assemblée. Il rétablit le suffrage universel masculin. Et enfin, le 2 décembre 1852, à la suite d'un coup d'État, il devient empereur. Et c'est le Second Empire. Un empire qui va durer de 1852 au 2 septembre 1870, avec la catastrophe militaire de Sedan. Rappelons que Napoléon II, ou Louis-Napoléon Bonaparte, est mort en Angleterre en 1873. Et alors, après la guerre de 1870, naît la Troisième République, qui va durer jusqu'en 1939. Et qui va connaître notamment la Première Guerre mondiale. Cette Troisième République, elle naît donc après l'abdication et la défaite de Napoléon II en 1870. Et en 1871, est élu le premier président de la Troisième République, Adolphe Thiers. Il va d'emblée avoir une tâche peu facile, négocier avec la Prusse. La Prusse qui vient de rapporter une victoire incontestable. D'autre part, en 1871, se produit un événement qui laissera beaucoup de traces dans la mémoire populaire, la naissance de la Commune. En 1871, le massacre des communards va durer 7 jours. On estime à 30 000 le nombre des victimes. Adolphe Thiers va finalement démissionner en 1873. Il mourra 4 ans plus tard. Mais une chose à retenir. Adolphe Thiers était historien et il était membre de l'Académie française depuis 1833. C'est plutôt exceptionnel pour un président de la République d'être académicien français. Alors, après Adolphe Thiers, il y a eu Patrice de MacMahon. Il sera élu en 1873. Il est commandant. Il aura d'ailleurs droit à des obsèques nationales. Il était partisan de la restauration de la monarchie française. Et à l'époque, cette restauration n'était pas du tout aussi utopique qu'on pouvait le croire. Et tout a basculé par la faute du prétendant au trône, le comte de Chambord. comte de Chambord exigeait qu'on abandonne le drapeau tricolore pour revenir au drapeau blanc. Ça a été refusé. Et on peut dire que c'est de ce moment-là que date la fin de l'idée monarchique par rapport à l'ensemble du pays. Patrick de MacMahon finalement démissionnera en 1979. Il sera remplacé par un président qui a laissé peut-être plus de traces dans la mémoire collective, Jules Grévy. Et il va démissionner en 1887, après avoir été réélu pour un deuxième mandat en 1885. Oh, c'était pas à cause de lui qu'il va démissionner, mais comme le disait un chansonnier de l'époque, à quel malheur d'avoir un gendre. Il avait un gendre qui s'appelait Daniel Wilson et qui trafiquait des décorations. Et devant le scandale que cela a suscité, Jules Grévy n'a pas eu d'autre solution que de céder la place. Pourtant, signalons que en 1887, on proclame la liberté de la presse. Oui, ça paraît tellement évident dans nos jours, mais à l'époque. Et puis surtout, en 1880, sous la présidence de Jules Grévy, on a instauré l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire, ce qui était plus qu'une évolution, une vraie révolution, car désormais, l'enseignement n'était pas uniquement une affaire de religion. C'est aussi l'époque où on commence la colonisation, l'Algérie, la Tunisie, le Gabon, le Tonkin. C'est également sous la présidence de Jules Grévy qu'ont été instaurées deux traditions restées en place depuis. Le chant national, la Marseillaise, et l'instauration du 14 juillet comme fête nationale. Eh oui, le 14 juillet, fête nationale, ce n'est pas si ancien qu'on pourrait le croire. Alors la démission de Jules Grévy va laisser la place à un nouveau président, Sadi Carnot. Et Sadi Carnot va être président pendant 7 ans et sa présidence va s'achever de façon aussi spectaculaire que tragique. Il sera poignardé à Lyon par un anarchiste italien, Sante Geronimo Caserio. C'est aussi sous la présidence de Sadi Carnot que vont avoir lieu les premières grandes grèves, dans le nord de la France, à Fourmies notamment. Et en 1891, lors d'une grève, l'armée ouvre le feu. Il y aura 9 morts. C'est aussi sous la présidence de Sadi Carnot que Ravachol, l'anarchiste, est guillotiné en 1892. Signalons que l'assassin de Sadi Carnot Caseiros sera guillotiné en 1894. Dernière introduction. Favoriser, enfin, instaurer sous la présidence d'Ali Carnot en 1890, pour la première fois, le 1er mai, est déclaré jour férié, chômée et fête du travail. Signalons, pour la petite histoire, que Sadi Carnot est le seul président de la République à reposer au Panthéon. Et puis arrive un président qui ne va pas rester longtemps, Casimir Perrier. Il sera président 6 mois. Il sera élu en juin, il démissionnera en janvier. Et c'est Félix Faure qui va lui succéder. Félix Faure, c'est sous sa présidence que va éclater le scandale de l'affaire Dreyfus. C'est en 1898 que l'Aurore, le journal, publie une lettre d'Evisola, j'accuse, qui allait déclencher des événements qui ne sont pas loin de finir. Et une chose-ci, quand même. En 1895, les frères Lumière enregistrent un brevet d'invention. Et c'est la naissance officielle du cinéma. Alors, après Félix Faure, il y aura Émile Loubet, qui, lui, va commencer par gracier le capitaine Dreyfus. Il ne va pas le réhabiliter, il va le gracier. Et puis, sous sa présidence, toujours en 1901, c'est la séparation de l'Église et de l'État, une date pivot dans l'histoire des institutions de la République. Et il va exercer sa présidence pendant 7 ans, un septennat complet. Retenons que c'est en 1906 que le capitaine Dreyfus est enfin réhabilité, retrouve son grade et sa fonction. Alors, suivant le président Émile Loubet, il y a eu Armand Falière. Alors, Armand Falière, c'est une date, parce que même s'il n'y est pour rien, c'est sous sa présidence que sont nés ce qu'on a appelé les brigades du Tigre. Vous savez, ces brigades de policiers exceptionnels qui, dirigées par Clémenceau, ont fait les beaux jours, beaucoup plus tard, de la télévision française. Et c'est aussi sous Armand Falière qu'a été instauré le repos du dimanche. Le dimanche est désormais un jour de repos et non plus un jour de travail. Et enfin, c'est sous sa présidence qu'a été instaurée la retraite à 65 ans. Je vous propose une pause musicale. Thank you. succédant à Armand Falière, un président qui va avoir un rôle important quand même, parce qu'il va être président de 1913 à 1920. Autrement dit, qu'il va être président pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale. C'était un adversaire forcené du pacifiste Jean Jaurès. Il instaure le service militaire à 3 ans. En 1919, il négocie d'arrache-pied le traité de Versailles. Notons que la même année, voilà le jour, ce qui a précédé l'ONU, la Société des Nations. Et puis, il sera suivi dans le fauteuil présidentiel par Paul Deschanel. Paul Deschanel, c'est un peu un cas. Il a été désigné comme président en 1920. Il va démissionner la même année, au mois de septembre. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que, au mois de mai, il a été retrouvé errant en pyjama sur une voie ferrée. Alors l'employé des chemins de fer, qui demande son nom, n'arrive pas à croire qu'il s'agit du président de la République, mais si, il s'agissait bien du président de la République. Alors, pour éviter que de pareilles choses se renouvellent, il va démissionner. Oh, à la place, on y trouve un poste de tout repos. En décembre 1920, il est nommé sous-préfet de Dreux. Ensuite, il sera sénateur d'Eure-et-Loir. Et en 1920, Alexandre Millerand va lui succéder. Et Millerand sera obligé de démissionner en 1924, après la victoire du cartel des gauches. Et c'est l'arrivée au pouvoir de Méridional Grandin, Gaston Doumergue. D'ailleurs, on ne disait pas, dans le Midi, on ne disait pas Gaston, on disait Gastounet. Il est né dans le Gard, il est mort dans le Gard. Il a été président de 1924 à 1931. Un septennat complet et, notons-le au passage, c'est le premier président de la République française à avoir été protestant, convaincu et affirmé. Alors, en 1930, c'est lui qui va inspirer le début de la construction de ce qu'on a appelé la ligne Maginot, qui va durer jusqu'en 1936. Vous savez, cette ligne Maginot, dont on disait qu'elle était un rempart contre la Prusse, enfin contre les Allemands plutôt, un rempart infranchissable. 3 ans plus tard, les armées allemandes se contentèrent de contourner cet obstacle pour pénétrer en France. Comme quoi, parfois, les militaires savent très bien cacher leur incompétence. Et puis, en 1931, arrive à la présidence Paul Doumergue. Paul Doumergue, c'est un homme qui d'emblée attire la sympathie. Un peu apitoyé parce que il avait 5 fils. 4 sont morts. À la guerre de 14 ou des suites de la guerre de 14. Et puis il sera assassiné. Le 6 mai 1932. Il aura été président qu'un an à peine. Il est assassiné par un russe, Paul Gorgulov, qui sera guillotiné. Guillotiné, au passage, on peut rappeler son nom, par le bourreau Anatole Devler, qui mourra, lui, en 1939. C'est aussi sous Paul Doumer que commence à se manifester les ravages économiques de la crise mondiale commencée aux États-Unis en 1929. Alors Paul Doumer va succéder à Albert Lebrun, élu une première fois en 1932, réélu en 1936. Alors Albert Lebrun, il va en 1940 laisser le pouvoir à Pétain, au maréchal Pétain, sans démissionner d'ailleurs. En 1943, il sera arrêté, déporté. Il mourra en 1950. C'est le dernier président de la Troisième République. Notons que sous sa présidence, la semaine de travail est passée à 40 heures et ont été restaurés les congés payés. C'est également sous sa présidence qu'ont été signés les accords de Munich, cette gigantesque défaite face aux exigences de Hitler et de la Tchécoslovaquie, où sous prétexte de sauver la paix, la France et la Grande-Bretagne n'ont pas hésité à sacrifier la Tchécoslovaquie pour rien d'ailleurs, puisque elle-même allait être, après, victime des ambitions d'Hitler. Je vous remercie.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.